Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme 8e année, la fabulation freudienne, Sigmund Freud. Aujourd'hui, la liberté d'inventer.
Bonsoir, merci d'être là, fidèle au poste. Nous avons abordé une dernière fois, la dernière séance, avec cette idée qu'il n'y a pas un continuum, comme nous le dit habituellement l'histoire des idées ou l'histoire de la philosophie, mais plutôt un capharnaüm chez Freud, c'est-à-dire qu'on nous fait savoir que tout ce qui a eu lieu dans la vie de Freud devait déboucher sur la production de la psychanalyse, puisqu'il y avait une espèce de nécessité intérieure au fait qu'il était programmé pour ça, quelque chose comme une espèce d'onction divine, il aurait été porteur d'une grâce et il lui aurait suffi de dérouler un fil d'Ariane dans cet immense labyrinthe de la psychothérapie et que finalement il aurait fait de manière linéaire un travail qui l'aurait conduit directement à la production de ce que nous nommons aujourd'hui psychanalyse. Si nous procédons à une généalogie de cette aventure, nous découvrons qu'effectivement il n'y a pas à proprement parler un continuum, fil directeur, mais plutôt une espèce d'immense capharnaüm qui rend tout possible. La dernière séance, j'avais tâché de vous montrer qu'effectivement, on démarrait avec la cocaïne, qu'on terminait avec le divan, mais qu'on passait par un certain nombre d'épreuves diverses et multiples, la balnéothérapie, l'imposition des mains, l'hypnose, le fameux psychrophore, cette espèce de sonde de l'urètre qui permet d'injecter de l'eau glacée pour vous dispenser de vous tripoter, et toutes ces techniques diverses et multiples auxquelles Freud a abondamment cru. Je souhaiterais dans cette séance aborder la question plus particulière de la théorie de la séduction, de ce qu'il est convenu d'appeler la théorie de la séduction, et puis continuer en faisant voir, mais là sur le mode simplement allusif, parce qu'on pourrait consacrer une séance à chacune des contradictions que je vous proposerai dans la fin de cette séance, mais sur le mode allusif, vous montrer effectivement que le chantier est divers et multiple et la plupart du temps contradictoire. La carte postale concernant la question de la théorie de la séduction, c'est que Freud aurait un temps cru à une hypothèse que je vais vous proposer, et puis qu'il aurait vite abandonné cette hypothèse, convaincu que l'intelligence devait le conduire ailleurs. Il aurait découvert, à l'occasion de cette aventure de la théorie de la séduction, une chose importante, la théorie du refoulement, et qu'il aurait donc, d'une certaine manière, déjà été le penseur profond de la psychanalyse qu'il ne peut pas ne pas être. Donc je vais tâcher de vous montrer que ça ne fonctionne pas exactement comme ça et que la théorie de la séduction, s'il prétend la découvrir un jour de manière particulière, s'il prétend l'abandonner un jour de manière particulière également, en fait il ne l'abandonne jamais véritablement. Et c'est contraint et forcé par une biographie extrêmement triviale, c'est-à-dire la réception de cette théorie et de cette psychothérapie dans son propre cabinet à Vienne, qu'il sera convaincu un temps de dire qu'il renonce à sa théorie pour pratiquer ailleurs et autrement, mais en conservant tout de même. Vous verrez qu'il y a une espèce de conservation, déplacement, pour traduire ce fameux concept allemand, Aufhebung, concept pour lequel on n'a pas d'équivalent à proprement parler, si ce n'est cette juxtaposition conservation-dépassement. Mais je repréciserai ces choses-là dans quelques minutes. La théorie de la séduction, c'est extrêmement simple. Il s'agit d'aborder la question de ce qu'il appelle l'étiologie sexuelle des névroses. Vous savez ce que c'est que l'étiologie ? C'est l'origine d'eux. Il nous dit, voilà, il y a des névroses, il y a des névrosés. Eh bien, ces névrosés procèdent tous d'un moment biographique tout à fait particulier, qui est un événement traumatisant, un moment traumatisant. Et Freud considère que cet événement, il est toujours sexuel, il est toujours de nature sexuelle. Et la théorie de la séduction nous le dit très précisément, il est de nature sexuelle et il implique le père. C'est le père qui est l'abuseur sexuel des enfants que nous retrouvons un petit peu plus tard sur le divan, névrosé, manifestant des symptômes de névrose. Quelle preuve apporte-t-il ? C'est quand même important de voir ce qui sous-tend une affirmation comme celle-ci. Eh bien, la preuve qui n'en est pas une, c'est ce que j'ai déjà appelé le performatif. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler du performatif chez Austin, le linguiste qui met en place cette analyse du performatif. Le performatif consiste à dire qu'avec des mots, vous allez créer du réel. Quand Vous êtes pas mal à être marié, je présume, devant le prêtre ou devant le maire. Le jour où le maire vous dit « je vous déclare unis par les sacrements du mariage, je vous déclare mari et femme », eh bien, par la parole qui est la sienne, il vous déclare mari et femme, c'est-à-dire que vous l'êtes devenu. C'est-à-dire que c'est la parole qui est fondatrice d'une vérité. Et Freud est dans cette logique du performatif. Il dit, donc c'est vrai. Il pose une hypothèse et cette hypothèse devient une vérité. Exemple, toujours les lettres à Fliss, dans une lettre du 8 février 1897, son père vient de mourir 16 semaines plus tôt, on est tout de même dans la perspective d'un deuil, il écrit, citation, « Malheureusement, mon propre père a été l'un de ces pervers et a été responsable de l'hystérie de mon frère, dont les états correspondent tous à une identification, et de celle de quelques-unes de mes plus jeunes sœurs. La fréquence de cette relation me donne souvent à penser. » La chose est claire, son père vient de mourir et Freud fait savoir qu'il était un abuseur sexuel de son propre frère et également de quelques-unes de ses plus jeunes sœurs. Ça fait quand même du monde. Quelle preuve ? Aucune. Freud nous dit, c'est ainsi. À partir de cette hypothèse purement posée comme ça, gratuitement, il va y avoir une espèce d'universalisation de la maxime, c'est-à-dire Freud considère que, puisque c'est arrivé ainsi avec lui, c'est arrivé ainsi avec tout le monde. Et donc, tous les pères sont des séducteurs, des abuseurs sexuels de leurs enfants, d'où la cause des fameuses névroses qu'il lui faudrait soigner. Il trouve une deuxième preuve, enfin, c'est moi qui en fais des preuves, parce qu'il est bien évident que la logique du performatif ne relève pas de la preuve, simplement de l'affirmation posée de manière arbitraire et péremptoire. Mais lui considère que sa fameuse théorie, elle est vraie parce qu'il a un rêve, nous dit-il, et j'utilise l'expression à dessein, enfin je le cite, hein, c'est toujours une lettre à Fliss, 31 mai 1897, il nous parle des sentiments exagérément tendres qu'il a pour sa propre fille Mathilde. Il n'en dit pas bien plus, hein, on n'en sait pas plus, il parle de sentiments exagérément tendres. Il dit, citation, « Le rêve montre bien sûr, j'insiste sur le bien sûr, une espèce d'évidence, il rêve, donc évidemment la vérité est là, le rêve est plus sûr que la réalité, le rêve montre bien sûr mon souhait, j'insiste aussi sur le mot, mon souhait accompli, celui de prendre sur le fait un pater en tant qu'il est le générateur de la névrose et il met fin au doute très vif que je continue d'avoir. » Ce qui est assez drôle avec Freud, c'est qu'il ne se rend même pas compte qu'il livre véritablement le fin fond de sa pensée en utilisant des mots comme cela. Bien sûr, mon souhait accompli. À l'évidence, on voit bien que quand on se trouve dans la logique du souhait, on n'est pas du tout dans la logique de la preuve clinique qui lui permettrait, après avoir allongé un certain nombre de patients sur son divan, et des patients hystériques ou névrosés, de constater qu'effectivement, dans tous les cas, ça fonctionne bien comme ça, de façon à ce qu'à partir d'une expérimentation, eh bien, il ait pu conclure à une vérité qui pourrait être universelle. Son souhait, c'est le mot qu'il utilise, devient une vérité, c'est une parole d'évangile. Il souhaite qu'il en soit ainsi, donc il en va ainsi. Et on a déjà eu l'occasion de voir dans des séances précédentes combien le tropisme incestueux était important chez Freud et combien, personnellement, il était attiré par un désir d'union sexuelle avec sa propre mère et combien son père lui posait des problèmes dans cette réalisation de son propre fantasme. Donc, en fait, il projette, là encore, son propre fantasme et la mère qui se trouve toujours extraordinaire, fantastique, merveilleuse, formidable, et puis toujours le père qu'il s'agit de salir. Ce souhait, pur et simple, comme l'hypothèse même, souvenez-vous, du complexe d'Édipe est devenue une espèce de vérité universelle. Il voyage en train de nuit avec sa mère. Il pense qu'il n'a pas pu ne pas voir sa mère nue. Donc, il pense qu'il l'a désirée sexuellement. Et voilà, tout le monde est affligé du complexe d'Édipe. Eh bien, il en va de même. Il a un désir pour sa propre fille Mathilde. Il constate que son père aurait hypothétiquement abusé de son frère et de quelques-unes de ses sœurs. Donc, ça devient une vérité. De sorte que, quand vous lisez sur l'étiologie de l'hystérie, et voyez le passage entre la théorie et la pratique, entre la pratique et la théorie, entre l'existentiel, le biographique, l'autobiographique, et puis la production du concept, il nous dit « Je pose donc l'affirmation », là encore j'insiste, « Je pose l'affirmation ». Normalement, on parvient à une affirmation, mais on ne la pose pas. Si on pose une affirmation, ça s'appelle un postulat. Un postulat, c'est le contraire d'une démonstration. Donc, je pose donc l'affirmation qu'à la base de chaque cas d'hystérie se trouve reproductible par le travail analytique, malgré l'intervalle de temps embrassant des décennies, un ou plusieurs vécus d'expériences sexuelles prématurées qui appartiennent à la jeunesse la plus précoce. Je tiens ceci pour un dévoilement important, pour la découverte d'une source du Nil de la neuropathologie. Donc Freud nous le dit très précisément, tout ça est reproductible par le travail analytique, c'est-à-dire que si vous lisez la théorie de Freud, eh bien effectivement il nous dit que sur le divan, il a expérimenté la vérité de cette hypothèse. Ce sont toujours des abus sexuels qui sont à l'origine des cas d'hystérie qu'il soigne. Alors évidemment, c'est une théorie, mais c'est également l'occasion d'une thérapie. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de dire qu'il a pensé, il pense qu'à l'origine de toutes les névroses, il y a les abus sexuels d'un père, mais à partir de ça, il va proposer une thérapie qu'il faut inscrire dans la logique des thérapies dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire la cocaïne, l'imposition des mains, l'hypnose, le psychrophore, et toutes les techniques possibles et imaginables, la balnéothérapie, l'hydrothérapie, les électrochocs, la galvanothérapie, la franklinisation, enfin toutes ces choses qui ont été pratiquées par Freud dans un total désordre, et en faisant se superposer la prétendue vérité de la psychanalyse et puis l'usage du fameux psychrophore, puisque le psychrophore, cette fameuse sonde qui est censée guérir de la masturbation, il l'a prescrit, il en prescrit l'usage en 1910, à une époque où il a déjà beaucoup théorisé ce qu'était le divan, la cure, la thérapie et l'analyse. Donc il nous dit qu'il soigne, et le soin c'est tout simple, on est quasiment dans un léger décalque, ou dans un décalque avec un léger déplacement de la théorie hypnotique, telle qu'on la pratique chez Charcot, telle qu'on la pratique chez Bernheim, chez Forel et chez tous ceux qui sont des hypnothérapeutes à cette époque-là. On hypnotise, on suggère, on fait savoir qu'effectivement on va découvrir la nature du traumatisme, et quand on aura conscientisé le traumatisme, quand on aura dit ce qui faisait problème, alors on verra disparaître comme par enchantement les symptômes. Il nous dit qu'il a travaillé sur 18 cas. Le texte le dit très précisément, je vais vous le lire tout à l'heure. Et si vous mettez en perspective les lettres de la correspondance, les dates qui vous permettent de savoir qu'au moment où il intervient à la Société neurologique de Vienne pour faire sa présentation, au moment où il écrit sur l'étiologie de l'hystérie, Freud déplore qu'il n'a pas un seul cas nouveau, d'une part, et il déplore également n'avoir pas réussi à terminer aucune analyse en cours. Comment quelqu'un qui travaille sur 3 cas, qui n'a pas de cas nouveau et qui nous dit qu'il n'a pas réussi à finir une seule analyse, peut-il écrire un texte dans lequel il nous dit qu'il a travaillé sur 18 cas et guéri 18 cas et que dans les 18 cas en question, il était question d'hystérie à chaque fois. Vous voyez comment la méthodologie freudienne se présente. Vous avez une hypothèse, une proposition, une espèce de souhait, un désir, une envie, un fantasme. De ce fantasme, vous faites finalement une hypothèse qui devient bien vite une thèse, et vous faites savoir que cette thèse, elle est devenue vérité scientifique parce que vous l'auriez validée par l'expérimentation, par l'expérience, par le divan, et que vous auriez vu assez de personnes pour pouvoir vous permettre de dire que effectivement, l'étiologie sexuelle des névroses, elle se fait à partir d'un père qui est un abuseur sexuel. Je vous propose quelques cas cliniques sur lesquels il a travaillé, les fameux cas en question. Je vais vous donner les pathologies et puis le diagnostic. Et je vous assure que je n'invente rien, que si quelque chose est risible, eh bien ce sera le diagnostic freudien et pas du tout ce que moi j'en dirais. Il démarre avec une eczémateuse qui souffre de difficultés d'élocution. Elle a un eczéma autour de la bouche et des lésions aux commissures des lèvres. Ce sont les symptômes. Et la nuit, elle a beaucoup de salive dans la bouche et salive abondamment. Freud nous fait savoir que, la chose est claire, à 12 ans, son père l'a contrainte à une fellation. Voilà, ceci explique cela. Et il écrit à Fliss, dans une lettre datée du 3 janvier 1897, « Habemus papam ». Je vous disais qu'à chaque fois qu'il y avait du latin, il y avait quelque chose d'essentiel. « Nous avons un pape ». C'est lui, évidemment, le pape, hein, Freud, parce qu'il a découvert comment ça fonctionnait. Vous avez de l'eczéma partout, c'est normal, papa, vous avez fait une fellation quand vous aviez 12 ans, donc c'est normal que vous ayez ce type de problème. Dans un premier temps, la jeune fille souscrit à l'interprétation. Et puis, je vous signale la phrase exacte, parce que c'est intéressant de la voir entre guillemets, elle commit la bêtise de demander des comptes au vieux lui-même. Ça paraît un peu normal. Si on vous dit effectivement que tout ce que vous avez, salive, le fait de baver partout, des eczémas, des boutons, etc., vous disiez pas un problème, c'est votre père qui vous avait fait une fellation, c'est un peu normal que rentrant à la maison, vous puissiez interroger votre père et lui demander si c'est un peu juste, un peu vrai, ou, etc. Donc effectivement, elle a commis la bêtise de demander des comptes au vieux lui-même. Le père dit évidemment que c'est faux, c'est donc la preuve que c'est vrai. La patiente finit par refuser l'hypothèse, alors qu'au départ elle avait commencé par l'accepter, et bien si elle finit par refuser l'hypothèse, c'est donc bien la preuve que c'est vrai, nous dit Freud, puisque il développe une théorie extrêmement intéressante, et vous verrez, on aura l'occasion de consacrer une séance à ça, la question du verrouillage sophistique, ce qui fait que c'est à prendre ou à laisser la psychanalyse, et que si vous ne prenez pas, alors il y a plein de choses qui vont expliquer les raisons pour lesquelles vous ne prenez pas. Donc là, si vous dites, ben non, je ne suis pas sûr que... Enfin, mon père m'a dit que ce n'était pas vrai, eh bien, il dira, ben, vous pensez, ben évidemment, si vous dites que ce n'est pas vrai, c'est bien la preuve que c'est vrai. Et vous, vous ne vous en souvenez pas, c'est donc bien la preuve que c'est vrai, puisque vous avez refoulé. Et la théorie du refoulement chez Freud, elle est extraordinaire, parce qu'elle lui permet de dire que si vous ne vous en souvenez pas, ça n'est pas la preuve que ça n'a pas eu lieu, ça, c'est simplement la preuve que vous avez oublié, que votre conscient a oublié, mais que votre inconscient, lui, n'a pas oublié. Il a si peu oublié, d'ailleurs, que... Le refoulé est à l'origine de votre pathologie. L'étiologie sexuelle des névroses, c'est ça. Donc, vous connaissez la formule habituelle, c'est pile je gagne et face tu perds. Freud écrit dans la lettre à Fliss, parlant de cette jeune fille, je l'ai menacée de la renvoyer et je me suis convaincu, ça aussi c'est intéressant, je me suis convaincu qu'elle a déjà acquis une grande part de certitude qu'elle ne veut pas reconnaître. Donc elle dit que c'est faux, mais Freud est sûr qu'elle pense dans son inconscient que c'est vrai. Elle a beau dire, et plus elle est dans la dénégation ou dans le déni, plus finalement la vérité de l'hypothèse freudienne est validée. Deuxième cas, toujours dans une lettre à Fliss, on est le 22 décembre 1896, il nous dit, voilà, il a affaire à quelqu'un qui est incapable de boire de la bière et qui est incapable de se raser. Freud l'allonge, une conversation, etc. Diagnostic, je vais un petit peu vite, mais enfin le diagnostic est intéressant. Enfant, il a assisté à une scène tout à fait particulière. La bonne s'est assise les fesses nues, podice nudo, on est toujours en latin, hein, dans un bol à raser peu profond rempli de bière. C'est normal hein, comme situation. Ouvrez les guillemets, pour se faire ensuite lécher par le père. Donc Freud nous dit, voilà, c'est un peu normal que vous ayez la barbe longue et que vous ne parveniez pas à boire de la bière, car effectivement, quand vous voyez la bonne qui est en train de se mettre qu'une une dans une assiette dans laquelle vous avez de la Cronenbourg et qu'elle se fait ensuite lécher par le patron de la maison, c'est un peu normal qu'un petit peu plus tard, vous n'ayez envie de boire que de l'eau. Non, je vous fais des analyses en direct, là. Vous avez tort de sourire. Troisième cas, c'est une migraineuse. Toujours une lettre à Fliss, décembre 1896. Elle souffre, la dame en question, de maux de tête. Donc Freud continue sa méthode, hein, on discute, on explique, etc. Et il découvre qu'il y a là un transfert de pathologie. Et je cite encore, parce que là ça me paraît intéressant, toujours lettre à Fliss, hein. Alors lui est venu à cette jeune fille, hein, lui est venu dans l'inconscient le souvenir d'une scène où elle regarde, à 4 ans, papa, en pleine ivresse sexuelle, lécher les pieds d'une nourrice. C'est ainsi qu'elle avait deviné que le goût particulier du fils venait du père, que celui-ci avait donc été aussi le séducteur du fils, maintenant, elle pouvait s'identifier à lui et prendre ses maux de tête à son propre compte. Vous avez compris ? Vous avez vu comment ça marche ? Hein ? Vous avez un père qui lèche les doigts de pied de ses filles, vous assistez à ce genre de scène quand vous avez 4 ans, et bien, comme le père est migraineux, vous avez vous aussi des migraines quelques années plus tard. Normal, non ? Donc théoriquement, puisqu'on conscientise le refoulement, et bien, on libère les symptômes, et théoriquement... Celui d'avant doit boire de la bière et se raser la barbe, et celle-ci, normalement, il ne devrait plus avoir de migraine. Donc voilà les trois cas à partir desquels Freud nous fait savoir qu'il y a une théorie de la séduction qui est générale, généralisée, qui fonctionne pour tout le monde. Vous imaginez que quand vous faites venir des gens dans votre cabinet et que vous soignez de cette manière et que vous faites savoir ce genre d'informations à des jeunes filles eczémateuses ou à des garçons qui ont de la barbe ou à des jeunes filles migraineuses, à l'évidence, quand vous quittez le cabinet, vous pouvez poser des questions à vos parents et demander si effectivement les choses se sont bien passées de cette manière-là. Comme évidemment, c'était problématique pour Freud... et qu'une réputation, ça se fait vite et ça se défait vite dans la Vienne de cette époque-là, eh bien, il abandonne sa théorie. Il abandonne sans abandonner, tout en abandonnant, vous allez voir comment ça fonctionne. Il écrit donc à Fliss, 21 septembre 1897, Je vais te confier le grand secret qui, au cours des derniers mois, s'est lentement fait jour en moi. Je ne crois plus à mes neurotica. On a terminé dans cette aventure, il passe à autre chose. 8 mois plus tard, il considère que sa théorie de la séduction, eh bien, il va l'abandonner parce qu'il a vraiment eu trop de problèmes. Alors il donne lui-même les raisons, il explique pourquoi, et il nous dit, première raison, qu'il n'est jamais parvenu à mener une seule thérapie à bien. Donc il nous dit qu'il a travaillé sur 3 cas et qu'il ne les a pas guéris. Je vous rappelle quand même que, et je vais vous donner la citation pour que vous puissiez vous en rendre compte, que ça n'est pas ce que dit le texte théorique, qui lui parle de 18 cas. Je vous cite cet extrait de « Sur l'étiologie de l'hystérie ». La mise en relief du facteur sexuel dans l'étiologie de l'hystérie n'est issue, du moins chez moi, d'aucune opinion préconçue. Vous l'aurez compris. Seules les investigations de détails les plus laborieuses m'ont converti, à vrai dire lentement, à l'opinion que je soutiens aujourd'hui. Si vous soumettez au plus sévère examen mon affirmation que même l'étiologie de l'hystérie résiderait dans la vie sexuelle, elle s'avère soutenable si j'indique que j'ai pu, dans quelques 18 cas d'hystérie, reconnaître cette corrélation pour chacun des symptômes et, là où les circonstances le permettaient, la confirmer par un succès thérapeutique. Les choses sont clairement dites, si vous lisez ce texte aujourd'hui, et que vous n'avez pas le souci de la biographie, que vous n'avez pas le souci de la correspondance, que vous avez le seul souci de croire Freud sur parole, il a travaillé, il a examiné, il a eu 18 cas cliniques, il a eu des patients, il a travaillé longuement, il parle d'investigations de détails les plus laborieuses, ça s'est fait lentement, nous dit-il, donc il a vraiment travaillé, et on n'est pas du tout dans la logique d'une opinion préconçue, c'est l'expression qu'il utilise. Donc vous voyez effectivement que quand vous mettez ce texte-là, en regard de ce que raconte la correspondance à Fliss, on n'est pas du tout dans ce que la théorie rapporte sous prétexte d'examen scientifique ou de méthode expérimentale. On n'est pas du tout dans la méthode expérimentale, on est dans la pure proposition verbale, dans le souhait, le personnage qui parle est dans le souhait que les choses se soient passées ainsi, simplement pour pouvoir humilier une fois de plus son père, même si son père est mort, il s'agit de gifler le mort, et de continuer à considérer qu'effectivement le père est détestable puisque la mère est adorable et vénérable, et il continue, dans la logique de son tropisme incestueux, à faire de telle sorte que sa théorie de la séduction devienne une théorie générale. Petit rappel, parce que ça vaut le coup quand même de mettre en perspective les phrases dans l'œuvre, dans Psychopathologie de la vie quotidienne, Freud écrit « Il faut peut-être voir une conséquence de mes recherches psychanalytiques dans le fait que je suis devenu presque incapable de mentir ». C'est une information intéressante, hein, tout est dans le presque. Donc première raison, il abandonne parce que ça ne marche pas, parce qu'il n'a soigné personne. Il y a donc une deuxième raison, il nous dit que le cabinet se vide. Et là encore, citation, « la fuite des personnes qui pendant un certain temps avaient été les mieux accrochées ». Voilà la phrase qu'il écrit à Fliss, hein, « il y a une fuite des personnes qui pendant un certain temps avaient été les mieux accrochées ». Et puis une troisième raison, qui est une raison d'ambivalence à l'endroit de son propre père, donc il est dans la détestation, et puis en même temps il trouve que peut-être il fait fort. Et il dit, 3 octobre 1897, « Je ne peux seulement indiquer que chez moi, le vieux ne joue pas un rôle actif ». Il parle de son père, donc c'est terminé, le père était violeur, il a violé son fils, et puis violé quelques-unes de ses sœurs, mais quelques mois après, il revient sur cette théorie-là, en considérant que peut-être le père n'a pas joué ce rôle-là véritablement. Je continue l'analyse de cette lettre à Fliss, parce que c'est une lettre extrêmement intéressante. Alors, il nous parle de quelques-uns de ses doutes, mais vous allez voir qu'à chaque fois que Freud prétend qu'il regrette quelque chose, c'est pour revenir aussitôt après sur ce qu'il aura regretté, parce qu'il n'en démord pas. Sa théorie de la séduction, elle restera toujours vraie pour lui, jusqu'à la fin. Il nous dit « Je dois reconnaître en eux, sur les doutes, hein, il parle de ses doutes, je dois reconnaître en eux le résultat d'un travail intellectuel, honnête et vigoureux. » Et je dois être fier, après avoir approfondi le problème, d'être encore capable d'une telle critique. Donc il nous fait savoir que s'il a dit une chose, c'est bien, s'il a dit le contraire, c'est bien aussi, parce que finalement, quand on est capable de revenir sur ses positions, c'est qu'on fait un travail intellectuel honnête et vigoureux. Il ajoute, « Ce qui est curieux aussi, c'est l'absence de tout sentiment de honte, là où il pourrait pourtant avoir sa raison d'être, c'est sûr. » Il ajoute, « J'ai, à vrai dire, plus le sentiment d'une victoire que celui d'une défaite. » Ce qui n'est pourtant pas justifié. Et puis, bien sûr, je pourrais être très mécontent, L'esprit d'une renommée éternelle était si beau, ainsi que celui d'une richesse assurée, la complète indépendance, les voyages, le fait de mettre les enfants à l'abri, des graves soucis qui m'ont privé dans ma jeunesse, tout cela dépendant de l'hystérie, de son aboutissement ou non. Donc on voit bien que quand il est dans le commentaire de ce qui a eu lieu, alors qu'il a dû avoir des problèmes avec des familles viennoises pour avoir avancé ce genre de thèse, eh bien il considère qu'il a fait un travail intellectuel honnête et vigoureux, qu'il est fier d'avoir été capable de cette critique sur son propre travail, qu'il n'a pas ressenti de honte, qu'il a le sentiment plutôt d'une victoire. Et puis ce qui l'embête, c'est que finalement, il attendait, là encore, et souvenez-vous, c'était déjà le motif de son travail sur la cocaïne, il attendait l'occasion d'une renommée éternelle. Je souligne à nouveau l'expression, il est toujours dans cette perspective qu'il lui faut trouver quelque chose qui lui permettrait de faire plaisir à sa mère, c'est-à-dire devenir ce que sa mère a dit qu'il deviendrait, un petit génie, un personnage extraordinaire qui marquerait son temps et son époque. Et le regret, au bout de cette correspondance, au bout de cette lettre, il nous dit « Dommage qu'on ne puisse vivre, par exemple, de l'interprétation des rêves. » Effectivement, c'est moins gênant. Quand vous livrez vos rêves et que vous proposez une lecture, une interprétation du rêve, c'est moins problématique et vous pouvez effectivement continuer à conserver une clientèle. Donc il nous dit pourquoi il y a échec, il continue une explication en disant, il parle du constat certain qu'il n'y a pas de signe de réalité dans l'inconscient, de sorte que l'on ne peut pas différencier la vérité et la fiction investie d'affect. C'est une phrase extrêmement intéressante. Parce que lui considère effectivement que, normalement, on devrait pouvoir faire la part entre la vérité et la fiction investie d'affect. Qu'est-ce que c'est la fiction investie d'affect ? Ben, c'est prendre ses désirs pour la réalité. C'est considérer effectivement que l'affect, eh bien, le désir qu'on a pour sa propre mère, doit pouvoir générer une fiction qu'on pourra prendre finalement pour une vérité. Freud étonnamment considère que ce qui est le problème des autres, ça n'est pas son problème à lui. Il est incapable de voir qu'effectivement la théorie de la sublimation est une théorie qui procède de sa propre projection personnelle, de ses propres fantasmes, mais il considère effectivement que si quelque chose n'a pas fonctionné, il n'est pas question qu'il s'agisse de lui, mais plutôt des patients. Donc voilà ce qui lui permet de dépasser sa fameuse théorie de la séduction. Il nous dit effectivement que ça ne marche pas, que son cabinet est vidé, qu'il est peut-être allé un petit peu fort avec son propre père, que finalement ça n'a pas guéri les gens dont il nous a dit qu'il les avait guéris, que au bout du compte il n'avait pas eu 18 cas mais 3, et que les 3 cas n'ont pas été extraordinaires d'un point de vue de la psychothérapie. Mais il conserve en même temps, dépassement, conservation, c'est-à-dire que la théorie de la séduction, en tant qu'elle lui permet de découvrir, hypothétiquement bien sûr, mais enfin de découvrir le fonctionnement du refoulement, qui est un concept majeur en matière de psychanalyse, eh bien, il était dans la vérité de la progression qui est la sienne. On est donc bien dans la logique du continuum, on est dans cette théorie de la carte postale, il y a un continuum, et ce moment-là était un moment nécessaire dans un long mouvement qui le conduit à la découverte de la psychanalyse. Donc, on dit habituellement, la théorie de la séduction, c'est un moment dialectique qui permet effectivement de s'acheminer vers la vérité de l'analyse. Il nous dit qu'au bout du compte, il ne s'est jamais vraiment trompé et que le traumatisme, il est toujours bien existant. Je vous ai dit un petit peu tout à l'heure comment les choses fonctionnaient. Il nous dit de toute façon, soit on s'en souvient et donc je dis juste, soit on ne s'en souvient pas et je dis juste parce que le refoulement est grand. Et si le refoulement est grand, le traumatisme est grand, les symptômes sont importants, et à l'évidence, plus vous serez marqué, eh bien, plus il y aura eu en amont un refoulement considérable. Ce qui prouve évidemment la vérité de la théorie de la séduction. Il y a toujours des affaires sexuelles dans cette aventure, il y a toujours une étiologie sexuelle à toutes les névroses. Névrose, psychose, paranoïa, narcissisme, phobie, etc. Enfin, toutes les problématiques examinées ensuite par Freud. On viendra un jour sur le terrain des psychothérapies concrètes telles qu'elles sont groupées dans les 5 psychanalyses, et vous verrez qu'à chaque fois, on a des étiologies sexuelles, ça c'est sûr, et qu'à chaque fois, les parents, le père en particulier, jouent un rôle considérable. Dans son auto-présentation, je vous ai déjà dit qu'il y avait 2 textes considérables, puisque ce sont les textes dans lesquels Freud écrit lui-même sa propre légende. Il revient sur cette histoire, évidemment, il s'agit de donner une explication plausible au fait qu'il ait pu penser ça, écrire ça, dire ce qu'il a dit, en imaginant bien que la correspondance avec Fliss ne serait jamais publiée un jour. Il parle donc d'une erreur à laquelle j'ai succombé pendant un temps, et qui n'aurait pas tardé à devenir fatale pour tout mon travail. C'est assez bien rédigé pour qu'on puisse imaginer qu'il en va, d'où le travail théorique et conceptuel, pour imaginer que Freud avoue que finalement il allait dans une impasse, il se dirigeait vers une impasse et qu'intellectuellement ça n'aurait pas été très profitable. Donc évidemment il n'est pas question qu'il se soit trompé lui, on l'a trompé. La théorie elle est simple, la théorie telle qu'il la grave dans le marbre de l'autobiographie, ça n'est pas lui qui a abusé les patients, mais ce sont les patients qui l'ont proprement abusé. Donc il se reproche des choses qui sont autant de qualités. C'est assez drôle, à chaque fois que Freud se reproche quelque chose, c'est toujours une qualité. Il se reproche par exemple d'avoir été crédule. À l'évidence, il nous dit qu'il a cru les patients et qu'il n'aurait pas dû croire les patients. Il nous dit qu'il a eu tort d'avoir retenu son sens critique. Mais s'il se retenait de réfléchir, c'était par honnêteté intellectuelle. Donc effectivement, quand vous ne mettez pas en cause les bobards qu'on vous raconterait, par le conditionnel, eh bien, ça n'est pas de votre faute, c'est simplement parce que vous avez une qualité qui est l'honnêteté intellectuelle. Il nous dit qu'il a été trop impartial. Et effectivement, être partial, ça n'est pas bien, donc il a été impartial, il a laissé faire, il a laissé dire, c'est tout de même lui qu'on paie pour réaliser une psychanalyse et pour soigner des gens, pour guérir des gens. C'est lui qui propose une thérapie qui est censée faire sauter les symptômes. Mais il nous dit là que finalement, il a été impartial, qu'il n'aurait pas dû. Il nous dit qu'il a été également réceptif à la nouveauté, mais par curiosité scientifique. Sous-entendu, il avait envie de trouver, il avait envie de chercher, il avait envie de trouver, il écoutait ce qu'on lui racontait, on lui racontait n'importe quoi, et comme il avait le désir de savoir, libido sciendi, une espèce de passion pour la science, eh bien finalement il s'est fait avoir et qu'il n'aurait pas dû avoir cette curiosité scientifique. Donc effectivement, quand vous êtes dans l'autocritique, mais que cette autocritique, elle consiste pour vous à dire que vous avez été honnête intellectuellement, impartial, que vous avez été curieux scientifiquement, trop absorbé par la tâche de découvreur, trop intègre, trop objectif, trop héroïque, c'est difficile, effectivement, de considérer qu'on pourrait aller voir d'un peu plus près et peut-être mettre en cause la version présentée par Freud. Citation donc de la fameuse autoprésentation. « Au cas où quelqu'un viendrait à hocher la tête avec méfiance quant à ma crédulité, je ne puis lui donner tout à fait tort. » Mais j'alléguerais que c'était l'époque où j'usais intentionnellement de contraintes vis-à-vis de mon sens critique pour rester impartial et réceptif aux nombreuses nouveautés auxquelles j'étais quotidiennement confronté. Lorsque je me fus ressaisi, je tirais de mon expérience des conclusions correctes, à savoir que les symptômes névrotiques ne se rattachent pas directement à des expériences vécues affectives, mais à des fantaisies de souhait, l'expression a son importance, à des fantaisies de souhait, et que pour la névrose, la réalité psychique a plus de significativité que la réalité matérielle. Ça, c'est extrêmement intéressant de considérer effectivement que ce qui signe la névrose, c'est de considérer que la fantaisie de souhait, c'est-à-dire son désir, est plus réelle que la réalité. Le propre du névrosé pour Freud, c'est celui qui donc prend ses désirs pour la réalité, ne voit pas la réalité dans sa vérité, mais préfère la vérité de son propre fantasme. Le diagnostic est parfait, sauf que finalement c'est à lui que Freud aurait dû se l'appliquer. Donc, avec cette question de la théorie de la séduction, on voit bien, et j'en conclurai avec cette théorie de la séduction pour cette séance, on voit bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire comme avec la cocaïne, comme avec toutes les autres étapes que Freud franchit allègrement, les unes après les autres, et parfois en faisant se superposer les unes les autres, eh bien on voit bien qu'il n'y a jamais chez lui d'erreur, pas de contradiction, pas de revirement, pas de reniement, pas de faute, pas d'hésitation, mais simplement une lente progression vers la vérité. Il nous dit même très précisément, mais j'ai voulu passer un petit peu rapidement là-dessus, mais j'ai relevé les passages abondants dans l'œuvre où il nous dit que, évidemment, à chaque fois qu'il est revenu sur une thèse en particulier, il a bien pris soin d'en avertir ses lecteurs et qu'il en a fait une autocritique régulière et constante. On cherche les autocritiques régulières et constantes chez Freud et on ne les trouvera pas dans l'œuvre. Il oublie simplement. Il oublie, par exemple, de parler du moment où il croit à l'efficacité de la balnéothérapie ou des cures d'eau. Et c'est la correspondance, simplement, qui nous permet de voir qu'effectivement, il a prescrit ce genre de choses. Entre ce qui aura été écrit, ce qui aura été pratiqué et ce qui aura été dit dans la correspondance, eh bien, vous l'avez vu la dernière fois, il y a un nombre considérable de hiatus et de contradictions. Mais tout va dans le même sens, il s'agit d'aller vers le divan et uniquement vers le divan. Voilà sur cette question de la théorie de la séduction, à laquelle il renonce sans renoncer, simplement on est dans la transfiguration. Il dit qu'il renonce, pour s'assurer intellectuellement des arrières, comme ça l'affaire est réglée. Je souhaiterais continuer cette séance et la conclure avec une cartographie un peu rapide des autres Capharnaüm, des autres occasions de Capharnaüm dans l'œuvre complète. On pourrait développer abondamment et sur chacune des propositions que je vais vous faire, consacrer au moins une séance ou voire plusieurs séances. Mais le temps nous est compté et on est obligé d'aller un peu rapidement. Vous verrez qu'il y a une diversité des discours, une multiplicité des discours, et que l'unité, elle est faite simplement dans la subjectivité du personnage qui pose ces hypothèses comme des vérités et qui considère que son fantasme, c'est la réalité, et qu'à partir de ses propres fantasmes, il peut constituer une vision du monde absolument cohérente. Et évidemment, tout le monde ne lit pas les 20 volumes de l'œuvre complète, il suffit parfois de lire ce qui aura été écrit, et par Freud lui-même, en lui faisant confiance, évidemment, pour considérer que tout ça fait un corpus extrêmement homogène et qu'il ne s'est jamais trompé et qu'il n'a eu affaire qu'à la vérité. Donc, en passant rapidement, il est bien évident que si vous regardez tout ce qui correspond à la période qu'on dira flicienne, c'est-à-dire la période d'amitié avec l'ami William Flies, il y a des moments où Freud croit à l'interrelation entre le nez et l'organe sexuel. Pas seulement symboliquement, mais il considère qu'effectivement, le nez et l'organe sexuel sont dans des relations physiologiques directes, et il suffit de lire les correspondances pour voir tout ce qui est écoulement nasal, période sexuelle, enfin, il croit absolument à ce genre de choses, Freud, et aux fantaisies numérologiques de Flies lui-même, qui avait élaboré toute une théorie des cycles, avec un nombre de jours pour les hommes, un nombre de jours pour les femmes, et cette théorie des cycles expliquait le fait que vous puissiez aussi bien perdre une dent que perdre quelqu'un dans votre famille, avoir un coup de génie ou un coup de barre, etc. Enfin, tout était susceptible d'être expliqué par les cycles, et Freud a consenti à ça jusqu'à la rupture avec Flies. Et puis après, évidemment, il n'y souscrit plus du tout. Il y a un autre moment aussi où, quand vous lisez par exemple « Psychanalyse et télépathie », eh bien, vous verrez des passages dans lesquels Freud fait savoir que ben, finalement, la télépathie, il l'a expérimenté. La transmission de pensée, il l'a expérimenté aussi avec sa propre fille, ce qui n'est pas sans sens non plus dans les logiques incestueuses dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Mais il utilise la transmission de pensée, l'occultisme par exemple, il nous fait savoir que ben, finalement, il y a des points communs entre l'occultisme et puis la psychanalyse, et que les psychanalystes sont des gens qui, comme les occultistes, doivent faire face à la vindicte populaire. Les gens n'aiment pas la psychanalyse, pas plus qu'ils n'aiment les occultistes, et qu'il y a pas mal de choses en commun. Mais la stratégie, et ça, on le verra, je consacrerai une séance là-dessus, dans la stratégie qui, elle, est toujours visible dans des correspondances, la correspondance dit « attention, pas de complicité avec ces gens-là, parce que ça pourrait être dommageable pour la propre cause. » Et quand il s'agit de se manifester publiquement, il se désolidarise. Là, vous lisez « Rêve et télépathie », par exemple, et vous verrez comment Freud dit qu'effectivement, ça n'a rien à voir. Donc, d'une part, il est favorable au rêve, à la télépathie, à la transmission de pensée, à la possibilité de faire tourner les tables, à l'occultisme, etc. Et puis, d'autre part, il considère que ça n'est pas bon pour la cause et qu'il faut éviter d'apparaître publiquement comme soutenant ces gens-là. Autre point de contradiction, il écrit un texte qui peut donner l'impression d'être un texte libérateur d'un point de vue de la sexualité, et il nous dit effectivement que la morale sexuelle telle qu'elle est produite par la civilisation judéo-chrétienne, elle est productrice de névrose. Certes, elle procède de névrose, mais elle est productrice aussi de névrose, et l'idée qu'il faudrait faire de telle sorte que la sexualité soit génitale, monogame, fidèle, avec les enfants, la cohabitation, etc. Il nous fait savoir, Freud, que ça ne marche pas, que ce modèle, ce schéma familial n'est pas le bon. Et il donne l'impression, effectivement, qu'on pourrait utiliser quelques phrases de son travail pour être critique, ce que feront les freudo-marxistes, dont on aura l'occasion de parler probablement l'an prochain, Reich, Marcuse, Fromm, qui sont tous des gens qui s'appuient sur ce petit texte dans lequel Freud est très critique sur la morale sexuelle dominante. Et puis en même temps, et là aussi on consacrera une séance à ces questions, on découvre un Freud qui est ultra conservateur sur des questions comme la masturbation, l'homosexualité, et on découvre un Freud misogyne et phallocrate. Et vous verrez des textes dans lesquels eh bien, le schéma est l'homme, c'est le pénis, c'est le phallus, la vérité, et la femme se définit comme l'être à qui il manque le pénis, à qui il manque le phallus. Donc, en gros, la femme est un sous-homme. Et dans un développement naturel, eh bien, un individu s'en va vers la génitalité, donc la copulation avec un partenaire du sexe opposé. Ça, c'est la vérité, nous dit Freud, et si vous êtes en dehors de cette vérité, on est dans une logique de perversion. Et vous verrez qu'il y a des justifications idéologiques de l'interdiction de la masturbation. C'est-à-dire que la morale sexuelle est répressive, et si vous pensez que vous pouvez vous affranchir quelque peu de la répression sexuelle par la masturbation, eh bien, Freud vous fait savoir que ça n'est pas bien. Et je vous dirai pourquoi, comment, le temps venu. Autre moment relativement contradictoire, en 1900, il développe ce qu'on appelle la première topique, ce qu'il est convenu d'appeler la première topique dans le rêve, enfin, dans l'interprétation du rêve. La topique, ce sont des lieux, si vous voulez, ce sont des lieux allégoriques. Et on aura aussi l'occasion de préciser ça, c'est inconscient, préconscient, conscient. Il y a une articulation entre ces trois instances-là, l'inconscient, le préconscient, le conscient. Freud nous fait savoir que ce sont des allégories, des métaphores. On oublie trop souvent ça et il nous dit, attention, nous prenons souvent des métaphores pour la vérité et la réalité. Il nous le dit et il le fait tout de même. C'est-à-dire qu'il est extrêmement conscient sur le fait qu'il est dans la production d'allégories, mais en même temps, il est inconscient sur le fait que ces allégories deviennent assez rapidement vérité sous sa plume parce qu'il a besoin que son fantasme devienne vérité et réalité. Je vous rappelle que c'était le signe distinctif du névrosé selon son propre aveu. 20 ans plus tard, il écrit « Au-delà du principe de plaisir » dans lequel il change de topic et il nous dit « Bon, préconscient, conscient, et inconscient, préconscient, conscient, c'est une topic, j'en propose une autre qui est le ça, le moi, le surmoi. » On peut imaginer de faire se superposer par exemple « ça » et puis qui est d'ailleurs un concept emprunté à Nietzsche, j'ai eu l'occasion de le dire en début d'année, mais, et via Grodeck, qui est un autre psychanalyste. Mais on peut faire se superposer le ça et l'inconscient, mais ce n'est pas exactement ça. Donc il y a des changements théoriques, il y a des changements allégoriques, il y a des changements métaphoriques qui sont autant d'occasions de changements de discours. Il y a des psychanalystes qui n'épousent pas, à l'époque, qui n'épousent pas forcément les changements d'avis de Freud sur cette question-là. Autre sujet qui vous permet, si vous êtes dans une logique de prélèvement, de justifier une chose et son contraire, dans Deux la psychothérapie, un petit texte, il nous fait savoir, Freud, que l'analyse, elle doit être payante. Et là aussi, on reprécisera les modalités de l'analyse concrète, ce qui se passe dans un cabinet d'analyste. Et il y a une théorie de l'argent chez Freud qui est assez extravagante, où il nous explique qu'il faut payer. Qu'une psychanalyse, ça suppose qu'on paye. Alors qu'on paye de sa personne, mais qu'on paye aussi en monnaie sonnante et trébuchante. Liquide, la plupart du temps. Hein. Je vous dis ça pour les inspecteurs des finances, des impôts qui seraient dans la salle, mais vous êtes au courant. Et donc, il nous dit, voilà, plus vous payez cher, plus vous avez intérêt à précipiter l'issue de l'analyse. Parce que comme ça vous coûte cher, on n'avait pas intérêt à ce que ça dure longtemps. Donc, il nous dit, Freud, que plus c'est cher, et plus c'est rapide et plus c'est efficace. Même s'il n'a pas envie que ce soit trop rapide, parce que les Américains, ils trouvent que ça va trop vite chez les Américains. Et de fait, si ça va trop rapidement, il faut chercher des patients, des clients, je préfère dire des clients, et il vaut mieux les conserver longtemps, pour des raisons que vous imaginez. Et bien, il considère, dans un autre texte, Les voies nouvelles de la thérapie psychanalytique, que l'analyse, eh bien, elle peut être gratuite. Il nous parle à ce moment-là, moi j'avais été très étonné de découvrir ça, ça me le rendait sympathique, il parlait de la thérapie populaire gratuite délivrée dans les dispensaires. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il était pour l'analyse payante chez lui et pour l'analyse gratuite chez les autres. Donc il y a des moments comme ça où vous avez l'impression que c'est contradictoire ou qu'il y a un aspect sympathique chez lui, mais non, il considère que quand c'est payant et cher, ça marche, c'est bien, et qu'il faut venir chez lui pour ça. Et puis si en revanche vous êtes un pauvre, vous verrez qu'il renvoie les pauvres de ce côté-là en disant ben, « il y a des dispensaires pour ça, et ça peut être gratuit ». Et on a envie de lui dire « mais si ce que vous dites est juste, si c'est gratuit, ça ne soignera pas ». Mais ce n'est pas son problème. Donc là aussi, Capharnaüm dans cette logique-là, gratuit, pas gratuit, est-ce que la gratuité... Ou alors on est dans un cynisme total, ce que je crois, dans un cynisme total qui consiste à dire « pour les autres, ça peut bien être gratuit, même si ça ne marche pas, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai ma clientèle et ça me suffira ». Dans Malaise dans la civilisation, vous avez la thèse classique, hein, la religion est la cause des névroses, et parce que cause et effet en même temps, mais on a une critique de la religion, parce qu'elle est à l'origine d'un certain nombre de névroses. Et puis, dans le petit texte dont je parlais tout à l'heure, la morale sexuelle culturelle et la nervosité moderne, eh bien, vous avez une étrange thèse dans laquelle Freud met en perspective l'affaiblissement des religions et l'augmentation des névroses. Il dit, voilà, dans des périodes où la religion a tendance à reculer, eh bien, les névroses ont tendance à augmenter. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait une espèce de rôle prophylactique de la religion en matière de névrose et que, d'une certaine manière, la religion serait l'occasion d'empêcher un certain nombre d'autres névroses, puisque la religion est une névrose pour Freud lui-même. Névrose obsessionnelle, qui a l'obsession de Dieu comme d'un père exalté, comme il nous dit, c'est son expression. Il considère effectivement que cette névrose qu'est la religion, elle dispense d'avoir d'autres névroses. Et si la religion, c'est la névrose religieuse recule, d'autres névroses reprendront le dessus. On peut opposer également le pessimisme radical de malaise dans la civilisation, et vous verrez que ce pessimisme-là est l'occasion de penser une politique un peu effrayante, politique de césarisme très autoritaire, puisque finalement on ne peut rien attendre du monde et que rien ne peut changer et que l'instinct de mort, la pulsion de mort est là et qu'elle elle gouvernera toujours les hommes. Pas grand-chose à attendre de la politique, si ce n'est quelqu'un qui soit capable de dresser cette pulsion-là, et vous verrez sa fascination pour les dictateurs. Et puis un petit texte du rabaissement généralisé de la vie amoureuse qui laisse entendre que peut-être de nouvelles orientations seraient possibles pour la civilisation. Donc peut-être une porte entrouverte et qui nous permettrait d'imaginer que peut-être on pourrait saisir cette occasion de croire à un changement possible dans une société. Tout ce que je vous propose comme contradiction, comme jeu de contradiction, sera l'occasion pour tous les freudo-marxistes de s'engouffrer dans des positions minoritaires. Il est bien évident que la critique de la morale sexuelle, elle est minoritaire chez Freud et qu'elle deviendra majoritaire dans le freudo-marxisme. Quand les freudo-marxistes comme Reich le premier et les autres dont j'ai eu l'occasion de vous parler déjà, Fromm par exemple et Marcuse, développeront ces pensées-là, évidemment ils iront prélever dans le corpus freudien telle ou telle phrase, à partir de laquelle phrase ils pourront élaborer leur propre théorie, mais souvent au détriment de la totalité de l'œuvre freudienne qui reste pessimiste, qui reste tragique, qui reste dans les logiques du « il faut payer, il faut, on guérit plus », etc. Enfin, tous les premiers temps des propositions que je viens de vous faire. Vous l'avez vu, nous l'avons vu, sa fameuse théorie de la séduction, c'est-à-dire il y croit, puis il n'y croit plus. On a déjà eu l'occasion d'en parler à la dernière séance ou dans des séances précédentes. Il croit en 1895, à la possibilité d'une psychothérapie scientifique. Il écrit une esquisse d'une psychologie scientifique, par exemple, en 1895, puis quelques temps après, il n'y croit plus. Mais plus tard, dans un livre de la fin, dans un texte de la fin qui s'appelle « L'analyse sans fin, l'analyse avec fin », eh bien, il nous fait savoir que peut-être, un jour, la chimie aura fait assez de progrès pour qu'on puisse soigner tout ce qui est psychopathologie avec des médicaments. Et on voit que, finalement, le Freud de 1895, celui des dernières années, pourrait dire la même chose et que, finalement, on pourrait aborder la question des psychopathologies sur le terrain de la physiologie ou de la neurobiologie. Et puis, vous avez un autre Freud qui est celui de la métapsychologie, qui, là, pour le coup, est dans une logique, c'est peut-être l'un des textes les plus conceptuels de Freud, avec au-delà du principe de plaisir, mais un texte dans lequel on est dans un grand degré de conceptualisation, de cérébralité, où Freud joue avec des métaphores ou des topiques nouvelles, et il tient mordicus à cette idée que l'inconscient est psychique. L'inconscient est radicalement psychique. Donc pas question d'aller chercher des histoires de neurones ou d'aller chercher des histoires de chimie qui seraient susceptibles de régler les problèmes de neurotransmetteurs. On est dans une affaire de psychisme pur et d'inconscient. On consacrera une séance entière à la question de l'inconscient et on verra à quoi ressemble l'inconscient chez lui. Autre contradiction, tout cet arsenal des thérapies dont je vous ai parlé, cocaïne, électrothérapie, balnéothérapie, psychrophore, etc., théorie de la séduction, et puis l'espèce de vérité du divan, parce que Freud sait le divan, on ne parle pas du psychrophore habituellement quand on aborde la question freudienne, sur des questions importantes également, comme l'analyse de proches, ou le fait qu'on puisse analyser des gens qu'on connaîtrait, qui seraient des amis. Eh bien, dans Conseil aux médecins sur le traitement analytique, Freud fait savoir qu'il ne faut pas analyser ses proches, et que ça n'est pas pensable, ça n'est pas concevable, d'un point de vue thérapeutique, ça n'est pas rentable. Je ne parle même pas des relations d'argent, parce que là, effectivement, c'est... Mais que vous avez une impossibilité radicale à parvenir à des traitements, à des solutions, quand vous abordez des membres de votre propre famille, et puis le Freud qui lui-même analyse sa propre fille, la maîtresse de sa fille, les enfants de la maîtresse de sa fille, et qui donne tort à sa théorie. Où est le vrai Freud? Est-ce que c'est le Freud qui nous dit on ne touche pas à sa famille, ou est-ce que c'est le Freud qui analyse sa fille et ceux qui sont dans la logique affective avec sa propre fille? Donc effectivement, le capharnaüm est problématique On peut choisir tout ce qu'on voudra dans cette aventure, séduction, pas séduction, psychologie scientifique, pas psychologie scientifique, immatérialité de l'inconscient, matérialité de l'inconscient, soins gratuits, soins payants, civilisation susceptible d'être changée ou civilisation impossible à changer, ou etc., etc. Enfin, toutes ces propositions que je vous ai faites un peu rapidement, vous voyez qu'effectivement, il y a des contradictions suffisamment importantes pour qu'on ait besoin de resserrer l'ensemble, fabriquer une légende et produire une mythologie qui nous donnera l'impression qu'on laisse de côté ce qui pourrait être trop problématique ou qu'on produit des liaisons intellectuelles qui donnent l'impression que, par exemple, la théorie de la séduction a bien existé, mais qu'elle était un moment préparatoire à la psychanalyse en tant que telle. Ce qui fait l'unité dans cette diversité, c'est effectivement le conquistador, la figure du conquistador. Je vous avais déjà dit qu'il s'était revendiqué théoriquement, dans l'œuvre, pour le coup, de Copernic, de Galilée, de Darwin, et puis de lui-même, en disant, voilà, il y a trois blessures narcissiques, et moi je suis la dernière blessure narcissique et la plus importante, puisque je dis que le moi n'est pas maître chez lui, et il est dans le registre revendiqué de la science, et puis, dans la correspondance, il nous dit que, à Flis, mais avec quelques autres aussi, Marie Bonaparte, par exemple, il nous dit qu'il est un conquistador. Et le conquistador, c'est le personnage qui a de l'audace. C'est le personnage qui a le culot d'avancer ses thèses, ses hypothèses, en considérant que ce sont des vérités. Donc, quand j'ai lu l'œuvre complète, j'ai été très, très souvent étonné par le fait que, régulièrement, il nous dit que c'est une hypothèse, que c'est une proposition, que c'est l'essai d'une idée, qu'il n'est pas très sûr là-dessus, qu'il a des incertitudes sur ce qu'il avance, mais qu'il l'avance tout de même. Et si vraiment on fait un travail de lecture scrupuleuse, on découvre que très souvent, Freud a l'honnêteté de dire dans un premier temps qu'il tâtonne, qu'il cherche, qu'il essaie de trouver, qu'il expérimente, que c'est une proposition. Et singulièrement, dans la page qui suit, voire parfois trois lignes en dessous, la fiction devient réalité. Il nous dit « je suis dans une métaphore, je suis dans une allégorie, je suis dans une topique, j'ai besoin d'une topique pour penser ». Et puis d'un seul coup, cette topique, elle devient réalité. Il y a une espèce de mystère, qui n'en est pas un bien sûr, mais une espèce de mystère qui fait que Freud est dans une invention délirante, et cette invention délirante, elle devient tout de suite une vérité, une réalité. Et très vite, quand on est passé sur le papier de l'écriture théorique, ça devient vérité universelle. Le fonctionnement de Freud est ainsi fait qu'il a des espèces d'intuitions personnelles, subjectives, qui procèdent de sa propre psyché, à l'évidence, et ces intuitions qui procèdent de sa propre psyché deviennent très rapidement des vérités éternelles. Dans « Au-delà du principe du plaisir », par exemple, il y a une petite phrase extrêmement intéressante parce qu'on voit un peu son fonctionnement. Il dit, il a modifié quelques conceptions, il explique pourquoi. Les psychanalystes ont toujours des problèmes avec ce texte-là parce qu'effectivement, il secoue un petit peu ce qu'il avait dit précédemment. Et Freud sait bien que ça grince dans les chaumières. Il dit, je ne demande pas non plus aux autres d'y croire. Il a changé d'hypothèse, mais je ne demande pas aux autres d'y croire. Plus exactement, je ne sais pas dans quelle mesure j'y crois. C'est imprimé, hein. Là pour le coup c'est pas un essai de pensée dans une correspondance, c'est imprimé dans Au-delà du principe de plaisir. Donc Freud dit des choses, il ne demande pas qu'on croie forcément à ces choses-là, mais il se dit même qu'il n'est pas très sûr d'y croire lui-même. Donc effectivement on est dans une espèce de doute qui très vite se trouve transformé par une certitude. Il ajoute, seuls ces croyants qui exigent de la science un substitut du catéchisme qu'ils ont abandonné en voudront aux chercheurs de poursuivre ou même de remanier ses vues. Donc l'affaire est simple, et là aussi on est dans un processus de verrouillage sophistique. L'alternative, elle est simple pour Freud, c'est soit la contradiction, soit le catéchisme. Moi je pense qu'effectivement, il faut effectivement choisir entre les deux. Lui nous dit qu'il n'y a pas de contradiction chez lui, il n'y en a jamais. Ça laisserait croire que finalement il est dans une logique de catéchisme. Et je conclurai, c'est d'ailleurs la phrase qui m'a permis l'expression qui me sert de titre pour cette séance, « La liberté d'inventer ». Dans l'homme Moïse ou le monothéisme, une petite note, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire que l'essentiel était dans les notes, Freud revendique, alors là, ouvrez les guillemets, la liberté d'inventer, c'est lui hein, qui parle de la liberté d'inventer, la liberté d'inventer des rapports, des relations qui n'ont aucun équivalent dans la réalité, et j'attache évidemment un grand prix à cette faculté en faisant dans les sciences et ailleurs encore un important usage. Je conclurai là-dessus pour ce soir. Donc ce soir, exceptionnellement pour les bibliographies, il n'y aura aucun texte de Freud, mais comme on est un petit peu dans la méthode, j'ai choisi des ouvrages de de méthodologie ou qui ont à voir avec, avec la méthode freudienne. Vous avez vu comment ça fonctionne, une hypothèse, le passage, le glissement de l'hypothèse à la vérité et à la certitude, et le fait que cette certitude, elle devienne une vérité universelle, susceptible d'être extrapolée à la totalité de l'humanité. Donc je vous renvoie à ce livre d'Austin, « Quand dire, c'est faire », sous-titré, sur la traduction directe, « Comment faire des choses avec des mots », si vous voulez. Comment, à partir des mots, vous pouvez créer des choses. Un ouvrage de linguiste, a priori, mais extrêmement intéressant pour le philosophe, pour voir comment on peut partir d'affirmations pures et transformer ces affirmations pures en vérité scientifique ou en certitude philosophique. Un autre personnage que j'aime bien, qui s'appelle Paul Feyerabend, un livre qui s'appelle « Contre la méthode » et qui est sous-titré « Esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance ». Ça, c'est chez Seuil, en collection de poche. C'est extrêmement intéressant parce qu'évidemment, vous avez un discours de la méthode chez Freud qui fait autorité dans nos logiques. Et ce qui est intéressant chez Feyerabend, mais il est un peu revenu sur la fin de son existence sur les thèses de ce livre-là, mais il nous dit effectivement que parfois, les erreurs sont plus fécondes que les vérités ou que les découvertes. Et puis, il y avait chez lui aussi un dialogue sur la connaissance, qui est un texte un peu moins ardu d'un point de vue de l'épistémologie et très intéressant. Je renvoie à un texte qui est majeur et un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaston Bachelard, « La formation de l'esprit scientifique » chez Vrin. J'ai déjà eu l'occasion de parler de ce livre-là, qui est sous-titré « Psychanalyse de la connaissance objective ». Alors, le titre exact, « Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective ». Et Bachelard essaie de savoir ce qui fait qu'on parvient à une vérité ou ce qui fait qu'on n'y parvient pas. Et il met en scène ce qu'il appelle des obstacles épistémologiques. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles particuliers qui vous empêchent de parvenir à une pensée qui soit une pensée du vrai. Je voulais renvoyer aux travaux d'épistémologie de Popper, parce que Popper est l'un des premiers, enfin fait partie des grands critiques de la psychanalyse, la logique de la découverte scientifique chez Payot. Et puis au-delà, si vous n'avez pas envie de lire ce livre d'épistémologie un peu hard, vous pouvez faire connaissance avec lui dans une belle biographie écrite par Michel Irène Brudny, qui s'appelle Karl Popper, un philosophe heureux. Et puis un livre qui a fait beaucoup de bruit en son temps, et qui est un livre assez symptomatique aussi, est très intéressant, d'Alan Sokal et Jean Bricmont, « Imposture intellectuelle ». Elles ont été nombreuses, je dirais, dans le siècle. Eux se sont contentés de faire un travail sur cette pensée de la deuxième moitié du XXe siècle et sur l'usage que faisaient un certain nombre de penseurs très, très, enfin, autorisés, sérieux, etc., sur la question des mathématiques et des sciences physiques. Voilà pour la bibliographie.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur au Centre dramatique national de Normandie, Philippe Petit. Prise de son, Pascal René, France Bleu Basse Normandie. Mixage, Jean-Michel Coqui. Réalisation, Véronique Villa. Demain, inconscient et déni du corps.